Détour avec François Beauregard.
De retour après la pause, on continue la revue de presse avec Élisane Pellerin. Les fauteuils roulants, oh là là, il y a comme un vote qui a lieu demain à l'Assemblée nationale en France.
Oui, on a parlé il y a quelques semaines, François. On parle donc de l'Assemblée nationale qui doit voter au niveau du remboursement intégral des fauteuils roulants. On en avait parlé. Macron avait fait une promesse à l'époque comme quoi il est... fauteuils roulants.
Il en a fait quelques-unes.
Oui, mais là, on parle des fauteuils roulants qui seraient remboursés intégralement, François. Et là, on est rendu au vote.
Tout à fait, et c'est une question importante parce que jusqu'à maintenant, il y avait des plafonds de remboursement pour les fauteuils. Et malheureusement, les fauteuils sont... plus coûteux que le plafond.
Quand même beaucoup plus
pas
coûteux.
Pas mal plus coûteux.
Puis évidemment, les plafonds n'ont pas suivi.
Tout à fait. Et ce qui faisait que malgré la prise en charge de l'excédent du coût des fauteuils, souvent, ça posait problème. Alors maintenant, Sébastien Pétavy, qui est un député paraplégique de Dordogne. Alors lui, évidemment, c'est une cause qui lui tient à cœur parce qu'il sait de quoi il parle. Mardi, le 26 novembre, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée a approuvé un projet de loi déposé par M. Pétavy, comme quoi il n'y aurait plus de limite, hein, que si vous avez besoin d'un fauteuil, on va vous le payer,
oui,
quel qu'il soit. Mais dans ce sens-là, ben, c'est quand même peut-être un test, si je peux dire, pour l'Assemblée nationale en France, Assemblée qui est un peu divisée politiquement, là.
Oui, bien écoutez, c'est sûr que effectivement. Malheureusement, ça ne devrait pas être des questions politiques, mais ça devient des questions politiques,
exact,
entre les partis, même si ça vient du gros bon sens pour la plupart d'entre nous. Mais il y a aussi, bon, si vous voyez, s'il n'y a plus de plafond, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire rembourser n'importe quel fauteuil? C'est quoi, à ce moment-là, les limites qu'on va mettre?
Oui, pas d'abus non plus.
Pour éviter l'abus, pour s'assurer que tout le monde ait accès à l'équipement dont il a besoin. Donc, c'est tout ça qui va être à regarder. Garder par la suite, mais quand même, il y aura un vote là, demain qui devrait faire passer donc ce projet de loi-là et qui pourrait donc avoir une étape supplémentaire avant qu'on puisse légiférer adéquatement et éventuellement mettre cette loi-là, si tout va bien, en fonction.
Action. Tout à fait. Mais ça, c'est dans un contexte aussi où il doit y avoir... Il y a encore une discussion budgétaire, je pense, en France. Hein, le premier ministre Barnier essaie de faire passer un budget qui est quand même assez serré.
Oui.
En naviguant entre deux pôles de droite et de gauche qui ont évidemment des vues un peu contradictoires sur le sujet.
Oui, bien, c'est ce qui arrive souvent en France, hein, étant donné que les partis sont très polarisés d'un côté comme de l'autre. Et donc, effectivement, il faut dire que les personnes en situation de handicap, on en parlait, François, sont pas gâtées dans ce budget-là particulièrement. Donc, effectivement, c'est un peu épineux comme question.
Oui, tout à fait.
Et là, il faut montrer qu'on soutient les personnes en situation de handicap pour essayer de bien paraître, en même temps, essayer d'avoir un budget qui fait du bon sens. Donc, voilà, il faut...
C'est plus... Généralement, ce qui arrive, c'est que c'est au niveau bureaucratique où les coupures qui font mal sont faites, mais ça, c'est un petit peu derrière les portes closes.
Oui.
Alors que maintenant, on parle d'un vote sur la place publique. Ah, ça fait moins moralement...
Oui, bien, il faut bien paraître.
C'est plate
à dire, mais il faut bien paraître.
Ah, bien, c'est correct. On n'a pas de problème à les mettre au pied du mur. Là, on va parler d'une invention extraordinaire. J'en ai parlé à des amis pendant le week-end et tout le monde en veut une.
Bon, vous allez vous en acheter une.
Pour Noël.
Je suis sûr, hein, François. On parle de Indinov, oui.
Je suppose, oui.
Je suppose, effectivement.
I-N-D-I-E-N-N-O-V.
Merci, François. Mm. Donc, invention d'une ceinture airbag pour prévenir les fractures chez les seniors. François, vous êtes toujours pas un senior, mais...
Ben oui, j'en suis un, j'en suis un.
J'allais dire que vous pourrez y acheter et attendre d'en avoir besoin dans quelques années.
C'est pas. Parfois, négocier un escalier peut être difficile. Alors... des milliers de fractures du col du fémur ou des hanches, hein, chaque année surviennent dans la population en général, mais plus particulièrement les personnes plus âgées ont perte d'équilibre. Et ces fractures-là, créent des hospitalisations, sont lentes à guérir et parfois, ça déboule dans des conséquences jusqu'au décès.
Il y a beaucoup de pertes d'autonomie qui sont, associées à cela. Donc, effectivement, on a une ceinture donc, qu'on peut mettre au niveau des...
C'est une vraie ceinture. Oui. Hein, ça ressemble, c'est un petit peu plus épais qu'une grosse ceinture de cuir, là, mais ça a presque l'air d'une ceinture.
Oui. Oui. Et on peut mettre ça au niveau donc de la taille. Et effectivement, ça va s'ouvrir en airbag, donc en coussin protecteur.
En cas de chute.
En cas de chute.
C'est la façon que ça marche, c'est incroyable.
C'est tout à fait ingénieux.
Il y a des cellules qui sont capables de percevoir la situation tridimensionnelle de la cellule, de la ceinture, dis-je. Et en cas de chute, ça perçoit le fait qu'il y a une chute.
Oui.
Il faut éviter entre la station debout et la station assise, parce que si on ne fait que s'asseoir à table et que le airbag se déploie à chaque fois qu'on mange, c'est un peu gênant.
Oui, ça peut être gênant, surtout sur un rendez-vous galant, par exemple.
Oui, voilà. Mais c'est incroyable.
Ça peut quand même aider des gens
qui
ont des problèmes et avoir moins de difficultés avec avoir moins d'accidents. Donc, pour les personnes âgées, par exemple, qui veulent conserver leur autonomie,
tout à fait.
C'est une façon de plus d'être en sécurité à la maison. Donc,
en moins de 200 microsecondes, une fois que la perception de la chute a été enregistrée par la ceinture Indinov, il y a un coussin gonflable, comme on en a dans les autos, qui va se déployer autour de la personne, un peu comme si la personne se retrouvait au milieu d'un beigne.
Oui, voilà, comme une bouée.
Oui, tout à fait. Une bouée de sauvetage.
Oui, comme une bouée.
Et ça va absorber le choc. Alors, ça n'empêche pas la personne de tomber.
Non.
Mais ça fait que le choc sur le sol va être évidemment absorbé. Et il y a une cellule ou un émetteur qui va composer automatiquement le numéro de téléphone de 5 intervenants.
Oui. Donc, il y a quelqu'un qui pourra venir aider à relever la personne parce qu'effectivement, un coup qu'on a absorbé un choc au sol, il faut relever la personne. Donc, ça a été réfléchi quand même, François.
Tout à fait.
Par contre, comme cadeau de Noël, c'est quand même... encore dispendieux, hein?
Oui,
on parle de 490 euros.
Ben oui, 490 euros, c'est quoi? C'est à peu près 850 $, quelque chose comme ça.
Oui, à peu près.
C'est disponible en plusieurs tailles, en plusieurs coloris.
Oui.
Ah, ben ça fait plaisir.
Vous pourrez choisir vos couleurs, François.
Ben, parce que ça dépend comment on s'habille ce jour-là.
Ben tout à fait, comme ça, vous pouvez en avoir trois.
Ben, trois, là, ça commence à être dispendieux
et
un peu.
Et vous pouvez changer de...
On prend le noir. Le noir, c'est passe-partout.
Le noir, c'est passe-partout. Voilà.
Mais tu l'as dit tout de même, ça empêche des chutes. C'est certain qu'ils ont dû trouver une façon de voir que le choc du déploiement du coussin gonflable est absorbé d'une manière ou d'une autre. Parce que si vous avez déjà été victime d'un accident de la route et que vous avez reçu le coussin gonflable en pleine poire,
ça frappe.
C'est pas fait pour être confortable. Alors, mais... ça sauve des vies.
Voilà,
c'est ça qui est important. C'est un peu comme la ceinture.
Et avec le temps, on espère que ça va se démocratiser et donc les prix vont pouvoir être un peu plus acceptables pour monsieur et madame tout le monde.
Sans blague, en ayant parlé brièvement de cette nouvelle au cours du week-end à quelques personnes, d'emblée, j'avais déjà comme une liste de cadeaux de Noël.
Oui. Donc, tout le monde, vous savez ce que François va acheter à Noël.
Ce qu'on va faire, c'est qu'au cours de l'été, on va se tirer par terre sur le patio, on va tous gonfler nos airbags et on va aller à la piscine.
Voilà, tout à fait.
Bon, voilà, on rit, mais ça va être une...
Ça reste ingénieux.
Ça va sauver du monde.
Voilà, ça reste ingénieux.
Exactement. On espère que ça traverse l'océan jusqu'ici, en flottant. Enfin, un guide du handicap pour tous à Nîmes. La ville de Nîmes se distingue.
Oui, donc, on a un guide qui a pour ambition d'accompagner les porteurs d'un handicap dans les déplacements, la recherche de lieux de vie, d'emploi ou de formation, mais aussi qui va aider à accéder plus facilement à la culture et les sports et les loisirs. Un peu comme on a ici avec Kirol, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Kirol qui est peut-être un petit peu plus spécialisé, mais quand même, ça nous donne une idée de ce dont on parle. Donc, en France, on parle de 10 millions de personnes qui sont en situation... d'handicap et malheureusement, les endroits ne sont pas nécessairement tous adaptés.
Accessible. Exact. La ville de Nîmes s'est distinguée récemment au niveau français pour toute la France avec la marque Destination pour tous. Et Nîmes, on le sait, est le site est particulièrement connu pour ses sites archéologiques et ses sites romains.
Oui. Hein,
les aqueducs, les arènes, ainsi de suite. Alors, c'est sûr
et
que...
Il y en a 8 qui sont accessibles, François.
Oui, et c'est du travail parce que ce ne sont certainement pas le genre de sites historiques qui, d'emblée, sont accessibles.
Non, effectivement. Ça prend quelques petites rénovations.
Voilà, ou des accommodements, des rampes. Alors, bravo pour Nîmes. On va revenir après la pause et puis on aura le plaisir d'aller à Calgary. À Calgary, hein, en Alberta, il y a un marché d'art créatif.
Oui, un marché collectif créatif qui est organisé par la société Scope, qui s'est tenu donc samedi dernier à Calgary. Près d'une trentaine de créateurs en situation de handicap qui sont venus présenter leur genre, leur travail artistique, donc, et qui sont évidemment venus les vendre dans un marché de Noël, comme on voit de façon traditionnelle dans le temps des fêtes. Donc, on souhaitait mettre de l'avant, évidemment, les créations des personnes en situation de handicap. On parle de toutes sortes de créations, François, qui passent de la peinture aux créations plus de colliers, complexe. Par exemple, et de tissus. Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est intéressant dans tout ça, François, c'est que les personnes en situation de handicap, donc, se partagent les gains à la fin de la journée. Et les organisateurs, donc, la société Scoop, ne prennent pas de part de cet argent-là. Donc, tout l'argent allait aux personnes en situation de handicap.
Parce que le matériel coûte cher.
Le matériel coûte très cher quand on fait de l'artisanat, François. Malheureusement, on ne cesse de le répéter à votre micro, François, et peut-être qu'un jour, j'arrêterai de le dire parce que ce ne sera plus vrai, mais les personnes en situation de handicap
ont souvent
peine à trouver un travail, sont un peu plus en situation de pauvreté.
Tout
donc, effectivement, se payer du matériel artistique, si tu n'as pas d'emploi, par exemple, et que tu vis de l'aide de dernier recours, ça peut être difficile. Là.
Tout à fait. Ben alors ça, déjà, c'est un pas dans la bonne direction et c'est aussi une façon de se faire découvrir dans un public plus large. Mais pour avoir vu quelques-unes des œuvres qui étaient exposées...
C'était très beau,
C'était très, très beau.
Il y a des gens qui ont énormément de taillage. Je pense que ça peut enlever des préjugés, en fait, en montrant qu'effectivement, il y a des gens qui ont énormément de potentiel.
Tout à fait.
Puis qu'on peut créer, même si on a des problèmes d'handicap multiples, y compris parfois des problèmes moteurs, mais on réussit à créer quand même en utilisant différents outils qui vont aider les personnes en situation de handicap à être capables de tenir, et bien sûr de tenir le matériel d'art convenablement. Donc, il y a toujours façon de se débrouiller.
Ah oui, tout à fait. Il y avait le film qui s'appelait My Left Foot, hein, qui est l'histoire d'un peintre irlandais qui n'avait l'usage que de ses pieds et qui peignait avec son pied gauche. C'est vrai, c'est un très beau film, ça.
Oui, ça me dit quelque chose, vaguement.
Les années 90, là. Ouais. On revient au Québec, et là, c'est proprement scandaleux, ce dont nous allons parler.
Oui,
d'ailleurs,
François.
Nous aurons peut-être quelqu'un qui sera avec nous pour en parler plus avant encore au courant des prochaines semaines. Mais cela dit, prenons le temps de nous y arrêter. L'argent manque pour adapter les maisons.
Malheureusement, François, et ça me désole de devoir vous dire ça, mais il n'y a pas grande adaptation à domicile. Et en fait, ne prend plus de demandes parce qu'ils n'ont plus d'argent dans leur coffre.
La caisse est vide.
La caisse est vide, François. Et je ris, mais c'est pas drôle, là, c'est un rire jaune. Donc, on est au tout début du mois de décembre. Il y a des milliers de personnes en situation de handicap au Québec dont les projets sont sur la glace parce qu'effectivement, on n'a plus d'argent pour adapter. Et donc, on a mis un programme en arrêt.
Jusqu'en avril, jusqu'au prochain budget. Mais au prochain budget, qu'est-ce qu'ils en feront? Est-ce qu'ils vont...
On va voir.
On parle de milliers de personnes qui vivent dans des logements ou des maisons qui sont peu ou pas adaptées à leur situation et qui ont fait une demande et qui veulent transformer ou rénover la maison pour qu'elle soit adaptée. Et on parle de la sécurité, là. C'est pas des rénos cosmétiques.
Non,
là.
Non, c'est pas pour faire plus beau, François. On parle de rampe, on parle évidemment d'ascenseur, on parle donc
de cuisine,
de baignoire adaptée.
Oui.
Tu sais à quel point ça peut être dangereux d'avoir une baignoire qui n'est pas adaptée, mais que tout le monde doit quand même se laver dans la vie. Hein?
Exact.
Donc, si on n'a pas d'adaptation, ben, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord et ça peut être extrêmement dangereux. Donc, effectivement, on parle de la Société d'habitation du Québec. C'est la Société d'habitation du Québec qui s'occupe de ce programme-là et qui a mis...
Discrètement.
Oui, ben voyons, on n'en a pas trop parlé, mais comme d'habitude, entre autres, nos amis d'Execo ont levé le drapeau puisqu'ils sont, ils sont à la veille, donc ils ont vu ça passer. Donc, on avait une augmentation donc de 15 % au niveau du nombre de demandes par rapport à l'an dernier.
En fait, ce qui arrive, c'est souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le gouvernement du Québec a rehaussé le plafond de 16 à 50 000 $. Et ça, évidemment, ça, c'était... Je dirais normal, parce que ça faisait des années que le plafond de 16 000 avait été établi et avec l'explosion des coûts...
ça répondait plus aux besoins.
Des matériaux et de la main-d'œuvre dans le domaine de la construction, avec 16 000, on ne faisait pas suffisant. Alors, on a monté ça à 50. Bravo. Cependant, on n'a pas augmenté l'enveloppe de façon
l'enveloppe
suffisante.
L'enveloppe totale de façon suffisante, effectivement. Et alors, on a eu quand même plus de demandes.
Ben oui, s'il y a beaucoup de demandes qui... On dit aux gens... Profitez-en, le plafond a été haussé, ça tient compte des coûts véritables.
Donc, on a fait la promotion, mais on avait mal prévu. L'effet d'engouement et l'effet que, forcément, si on augmente le plafond 50 000 $ plutôt que 16 par personne, il va y avoir plus de demandes et les demandes vont effectivement, évidemment, coûter plus cher.
Parce que, vite, vite, là, 16 et 50, ben c'est le tiers.
Oui.
Alors, déjà, l'enveloppe aurait dû croître de 3 fois pour que le même nombre de demandes puisse être accepté. Les demandes ont augmenté. L'enveloppe est passée de 14 à 37 millions. Bravo. Mais malheureusement, ce ne fut pas assez. Et là, on a appris presque par inadvertance, par simplement un petit communiqué sur la page web, que la Société d'habitation suspendait pour une période indéterminée les principaux volets de son programme d'adaptation à domicile. Alors là, depuis, oui, levé de bouclier, et c'est assez justifié.
Oui, effectivement, François, parce que vous l'avez dit, c'est une question donc de sécurité. Et déjà, les délais étaient quand même importants.
Oui, tout à fait. On parlait de plusieurs mois, même s'il y avait une volonté d'accélération.
En mettant ça à l'arrêt, en fait, effectivement, il y a des personnes qui, je le disais tout à l'heure, on va être obligé de se débrouiller. Et on parle évidemment de rénovation qui souvent coûte plusieurs milliers de dollars. Donc... ça va être difficile là, pour les personnes en situation de handicap de prendre le coup. Et comme je le disais, en fait, effectivement, c'est un coup de plus, hein, François. C'est des coups de plus pour les personnes en situation d'handicap.
Voilà.
Et c'est pas les seules choses qui ont été coupées, bien sûr. Et là, si on ajoute les uns aux autres...
Ça fait dur.
Ça commence à, ça commence à être difficile, là.
Tout à fait. Cependant, et là moi, je trouve ça un petit peu... Je trouve ça bien, puis en même temps, ça me fait un petit peu tiquer. Le réseau de transport de la capitale, RTC, qui s'occupe des transports en commun dans la région de Québec, revoit les critères d'accessibilité universelle de ces arrêts. Et on peut maintenant y avoir l'entièreté des 158 parcours sera accessible.
Oui, effectivement. Mais là, il faut dire, voilà, on a... accepter que les trottoirs qui étaient dont la largeur minimum devait être de 2 mètres pour être considéré comme accessible en arrêt, soit de 1 mètre et demi. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'effectivement, il y a plus de...
d'arrêts
qui sont accessibles, mais pas parce qu'on a fait grand-chose.
C'est pas parce qu'ils sont plus accessibles en soi, c'est simplement qu'on a baissé les standards.
Oui, on a baissé les critères. D'un côté, c'est une bonne nouvelle. D'un autre côté, il faut dire, voilà, dans les faits, sur le terrain, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Okay?
L'amélioration est au fait que comme tout... On est passé de 1400 à... 4500 arrêts pourront être empruntés par un fauteuil roulant. C'est simplement que si vous cherchez un parcours à Québec, vous allez avoir sur votre itinéraire proposé plus de possibilités parce qu'on va inclure les arrêts où le trottoir ne fait que 1,5 mètre.
Oui.
Évidemment, la contrepartie à ça, c'est que vous allez devoir être plus habile avec votre fauteuil pour être capable de monter à bord.
Oui, donc ce qu'on répond là au niveau de la RTC, c'est que ce n'est pas une question de sécurité parce que 1,5 mètre, ils considèrent que c'est assez large pour être sécuritaire. Par contre, effectivement, au niveau des manœuvres pour embarquer dans les autobus, surtout avec des équipements qui sont assez larges, ça va prendre un petit peu de...
D'habileté.
D'habileté, voilà.
Et quelqu'un dont la situation en fauteuil roulant est relativement récente, ne les a peut-être pas toutes acquises.
Oui, ou quelqu'un qui perd un peu de mobilité ou de...
Un petit peu plus de
difficultés, effectivement, là, sur un trottoir d'une largeur de 1,5 mètre, ça pourrait être un petit peu plus difficile d'embarquer dans les autobus. Après,
semble-t-il que cette largeur est quand même celle qui est utilisée de façon standard dans d'autres sociétés de transport.
Vous allez me dire, François, j'étais à Madagascar, j'ai pas eu le temps de me rendre à Québec pour aller l'essayer.
Mais
vous nous direz, chers auditeurs, auditrices, de quoi ça a l'air 1,5 mètre avec un gros quadriporteur, par exemple? Je ne sais pas.
C'est une bonne question parce que
ne sais pas.
Bientôt, tout le métro va être de Montréal va être accessible au même
bientôt?
Compte.
Bientôt?
Voilà,
oui.
Ben oui, parce qu'on n'aura plus besoin d'ascenseur.
Vu comme ça.
Ah, je suis pas gentil. Mais enfin, il faut reconnaître tout de même que cet arrangement a été fait avec une consultation en amont. Alors, ce sont quand même des gens issus du milieu du handicap dans la région de Québec qui ont accepter cette redéfinition-là.
Oui, par des organismes donc de défense des droits des personnes en situation de handicap.
On comprend que ça a été une décision qui a été faite de concert.
Oui.
Et en toute connaissance de cause, ben, tant mieux si ça peut aider les gens à se bâtir des itinéraires plus conviviaux.
Il faut dire que 94% des autobus sont munis de rampes
accessibles
qui peuvent se descendre donc pour être accessibles. Donc, 94, c'est pas si mal.
Exact, tout à fait.
Et ceux qui ne sont pas accessibles là, sont des vieilles flottes qui devraient être enlevées d'ici...
Retirées bientôt
d'ici
du
2026,
service, hein?
Quand même. Donc, bon, exactement. On fait quand même un certain effort au niveau de la Ville de Québec, même si on...
Faut pas étirer l'élastique plus loin, c'est ce que je dirais, là.
Oui, bon, on fait quand même un certain effort, François.
Ben,
on va souligner, même si ça a des bémols. Disons-le comme
ça. Oui, disons que... on se comprend. Les maisons de la culture font un pas de plus vers l'accessibilité depuis le 15 novembre à Verdun. Il y a un sondage qui circule.
Il y a un sondage qui circule sur les réseaux sociaux de la maison de la culture de Verdun dans le but d'analyser les besoins du public en matière d'accessibilité à l'établissement. Ça fait partie de la vision de développement 2030 des maisons de la culture dans Montréal.
Bravo.
Qui se positionne pour rendre plus inclusifs les programmes culturels et évidemment les lieux des programmes culturels, donc les maisons en elles-mêmes, pour les personnes en situation de handicap. C'est en collaboration avec Entendre Québec qui s'occupe évidemment des personnes avec des handicaps auditifs et qui roule, qu'on connaît bien.
On souhaite que cette initiative-là fasse tache d'huile. On a un communiqué de la Ville qui facilite significativement, la Ville de Montréal s'entend, facilite significativement le déneigement des débarcadères pour les personnes à mobilité réduite.
Oui, pour l'hiver 2024-2025, donc l'hiver qui est à nos portes, là, oui, tout à fait. Donc, on va parler de déneigement des débarcadères pour les personnes à mobilité réduite. Après une mesure de 5 cm au sol, il y a 400 débarcadères qui vont être déneigés. Les opérations devront être réalisées en continu et devront être terminées au plus tard.
Voilà.
8 heures après la fin des chutes de neige. On parle d'un budget de 200 000 $ qui servira à mettre en œuvre ce service. Donc, on veut déneiger plus rapidement et on veut attendre moins longtemps, qu'il y ait moins d'accumulation de neige.
C'est une collaboration entre le service de transport de Montréal et Exequo. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un contrat spécifique. Alors, ça va être facile de savoir si le déneigeur fait bien ou non son travail. Bien, pour aujourd'hui, c'est tout. Mathieu Tessier à la régie, Claire Guéret à la recherche, Élisane Pellerin.
Merci, François.
À la prochaine.
À la prochaine.